Aujourd'hui,
émission spéciale
avec la classe de seconde Artus LPJ.
Autour de l'avenir de la planète. Écoutez-nous.
Écoutez-nous, écoutez-vous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Studio ZF, sur le 91.1 à Blois et 91.7 à Vendôme. Je m'appelle Noah.
Je m'appelle Tiphaine, nous sommes en classe de seconde production horticole et en vente en jardinerie au lycée horticole de Blois.
Nous allons vous présenter un projet radio sur le thème de l'avenir de la planète en débat.
Il y aura dans l'émission deux grosses parties, la première sur l'environnement et ensuite la deuxième sur l'avenir de l'être humain.
Les élèves de notre classe se sont réunis en plusieurs groupes avec plusieurs petits thèmes différents en les traitant pour la radio. Donc il y aura dans cette émission des micro-trottoirs et des interviews.
D'ailleurs, nous remercions tous les élèves d'avoir joué le jeu et les personnes qui ont contribué à notre émission en répondant à nos questions.
Nous allons commencer par accueillir notre première invitée, Emma, qui va nous présenter une interview sur les animaux marins tués par les déchets.
Bonjour Emma.
Bonjour Emma.
Hier, j'étais allée interviewer Monsieur Vial, un prof de bio au lycée horticole à Blois. Je l'ai interviewé sur les animaux marins morts à cause du plastique dans les océans. Que pensez-vous des animaux marins qui sont morts à cause du plastique dans les océans ?
Alors, depuis des années, on utilise du plastique dans notre vie quotidienne et ces plastiques sont déversés dans les océans en très grande quantité. Ces plastiques vont se dégrader et devenir des microplastiques, des toutes petites particules qui vont être avalées par des animaux marins. Et ça cause une mortalité chez ces animaux qui devient un vrai problème.
Que ressentez-vous à propos de ce sujet ?
Et la biodiversité, donc la disparition de certaines espèces à cause des pollutions, font partie des grands problèmes des changements dits climatiques et changements de notre environnement. Donc c'est un vrai souci de perdre des espèces à cause des plastiques.
Quel est l'impact du plastique dans les océans ?
Alors, les plastiques, en fait, qui sont déversés dans les océans, vont être réduits en très petites particules qui vont être ensuite avalées par les animaux. Ou même certains animaux peuvent être piégés par des sacs plastiques ou des objets beaucoup plus gros qui flottent et qui vont emprisonner certains animaux et donc les tuer.
Comment diminuer le plastique dans les océans ?
La seule façon de diminuer, c'est de réduire la consommation de plastique et donc arrêter d'acheter des objets en plastique et privilégier des objets en verre ou dans des matériaux recyclables.
Les déchets et la pollution de plastique peuvent-ils induire des maladies ?
Oui, ces microplastiques qui ont été avalés vont se trouver dans les chairs des animaux qu'ensuite nous allons consommer. Et du coup, on va également avaler des minuscules particules de plastique dans notre corps.
Ce sujet me touche car les animaux n'ont pas mérité de mourir de cette façon. Je trouve ça pas normal que certaines personnes jettent leur détritus au sol. Je ne comprends pas pourquoi ils les jettent pas dans des bacs de tri. Nous devons aider les animaux marins en faisant des petits gestes comme faire le tri, éviter les emballages plastiques, ramasser les déchets un peu partout. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre cette association Nettoyons la Loire qui existe à Blois.
Nous allons continuer maintenant par Imanol et Johan qui vont nous parler de la pollution sous une forme d'un quiz. Est-ce que vous êtes prêts à jouer ? Parce que Imanol et Johan ont préparé ça aux petits oignons.
Bonjour, nous allons faire un quiz sur la pollution. Première question, que fait l'Organisation mondiale de santé ? A. S'occupe des personnes âgées. B. Mène une action sanitaire à l'échelle mondiale. C. S'occupe seulement de la pollution.
B.
C'est une bonne réponse. En effet, l'OMS, Organisation mondiale de santé, mène une action à l'échelle mondiale pour promouvoir la santé depuis 1948, mais aussi sur les questions de pollution, d'après le site internet de l'OMS.
Deuxième question. Jusqu'en 2024, combien de personnes sont mortes à cause de la pollution dans le monde ? A. 300 000 de personnes. B. 2 millions de personnes. C'est 7 millions de personnes.
C'est
une bonne réponse. D'après Wikipédia, 7 millions de personnes sont mortes causées par les déchets dans le monde. Troisième question. Quel type de pollution n'existe pas ? Pollution mécanique, A. B. Pollution plastique. C. Pollution électrique. D. Pollution sonore et lumineuse. E. Pollution chimique. F. Pollution thermique et barométrique.
B.
C'est une mauvaise réponse. La bonne réponse est la C. C'est la pollution électrique. D'après le site naturefrance.fr, la pollution qui n'existe pas est la pollution électrique.
Question 4. Par combien de fois la pollution plastique a-t-elle été multipliée au cours de ces 40 dernières années ? Réponse A, 3 fois plus. Réponse B, 7 fois plus. Réponse C, 10 fois plus.
C.
C'est une bonne réponse. En effet, d'après le site naturefrance.fr, on a pu voir que la pollution plastique est 10 fois plus importante qu'il y a 40 ans. Question 5. Combien de temps environ met une bouteille en plastique pour se dégrader ? A, 400 ans. B, 50 ans. C, 200 ans.
Bah c'est la C.
C'est une mauvaise réponse. C'est la réponse A. En effet, d'après conservationnature.fr, une bouteille en plastique mettrait environ 400 ans pour se dégrader.
Question 6. Combien de tonnes de plastique sont déversées dans les océans chaque année ? A, entre 5 et 10 millions de tonnes. B, entre 10 et 20 millions de tonnes. C, entre 20 et 25 millions de tonnes.
C'est la B.
C'est une bonne réponse. D'après Wikipédia, il y a entre 10 et 20 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont déversés dans les océans chaque année. Question 7. Le continent de plastique dans le Pacifique Nord est deux fois plus grand que la France. A. Trois fois plus grand que la France. B. Quatre fois plus grand que la France. C.
B.
C'est une bonne réponse. D'après le site lumni.fr, le continent plastique est un endroit où plusieurs tonnes de plastique se sont réunies. Aujourd'hui, le continent plastique fait environ trois fois la France.
Question 8. Combien de mammifères marins meurent chaque année dans le monde à cause des déchets plastiques ? Réponse A, 100 000 mammifères. Réponse B, 50 000 mammifères. Réponse C, 150 000 mammifères.
La réponse B.
C'est une mauvaise réponse. C'est la réponse A. D'après lumni.fr, 100 000 mammifères trouvent la mort à cause de nombreux déchets plastiques jetés dans les océans chaque année.
Dernière question. Quel pourcentage de Français vivent dans les villes touchées par la pollution ? A, 30% de Français. B, 50% de Français. C, 80% de Français.
A.
C'est une mauvaise réponse. D'après le site internet de l'ADEME, la pollution se concentre majoritairement dans les villes où vivent près de environ 80% des Français.
Merci beaucoup à Emmanuel et Johan.
Merci. Maintenant, une pause musicale avec la chanson de Benabar, Effet Papillon de 2009. Moment de détente, on se retrouve juste après.
Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. Qu'on l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos, un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons,
à nos papillons,
à nos pelles, un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal, c'est l'effet papillon. normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé. Avec les baleines, on fabrique du rouge à lèvres, des crèmes pour filles. Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon qu'on se maquille. Si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal pour récupérer à 8 heures ton permis au tribunal. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Tant joli comme expression, petite chose, dégâts immenses. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas.
À présent, nous allons parler d'un sujet un peu triste, mais malheureusement toujours d'actualité. La guerre et la pollution, un sujet présenté par Kessy, Chanez et Kousseï.
Nous allons vous expliquer ce que nous avons fait durant ce projet radio. Nous sommes partis au centre-ville de Blois, questionner des gens en parlant de la guerre des armements. Donc nous allons vous faire écouter les audios que nous avons faits.
Alors la forme, c'est un micro-trottoir du coup. On va vous poser 5 questions et vous allez nous dire du coup vos réponses. Alors, pensez-vous que la guerre a un impact sur l'environnement ?
Bah oui, oui.
Exactement, oui, je pense.
Ah oui, bah oui, c'est certain, oui.
Bah oui, puisque durant les guerres, il y a usage de produits polluants, notamment de gaz, notamment de produits comme le plastique ou encore comme des produits qui prennent du temps pour se désintégrer et du coup pour se recycler. Du coup, oui.
Selon vous, comment l'utilisation des armes pollue-t-elle notre planète ?
Le nucléaire, surtout, oui. Je pense que ça n'a pas que sur la planète.
Disons, s'il y a ça dégage du CO2, s'il y a des explosions, donc incendies, etc. Ensuite, ça détruit des êtres vivants. Ça détruit même des humains. Ensuite, y a la fabrication de ces armes qui doit quand même aussi... À mon avis, produire de la pollution de toutes sortes, donc de CO2, etc.
Selon vous, devons prendre en compte l'environnement quand on parle de guerre ?
Oui, on doit le prendre en compte, bien sûr que oui.
Bien sûr, quand même, c'est l'environnement qui est touché, oui ?
Oui, mais en même temps, non, puisque les pays, ils voient pas trop l'environnement quand ils parlent de guerre. Ils voient plutôt le règlement de compte et ils voient plutôt le fait de gagner la guerre et non pas de gagner par rapport à l'impact environnemental.
Alors, je pense que oui, on devrait, mais surtout si on a une vision en faveur d'un environnement qui se dégrade pas, pour pas dire plus grave que ça, en amont de ça, on va pas imaginer qu'on va faire la guerre, puisque... C'est un peu le même combat, c'est-à-dire le non-combat. Voilà.
Comment la guerre en Ukraine pourrait-elle affecter la qualité de l'air, de l'eau et sol dans la région ?
Avec les bombes qu'ils envoient, tout ça, c'est ça.
Avoir fait ça, je comprends pas, là.
Vous comprenez pas quoi ?
Poutine. Poutine qui a fichu là, hein. Pour pas dire autre chose. Puis ça continue et tout, moi... Et je pense que ça va faire mauvais parce que ça pourrait faire d'autres guerres ailleurs et ça sera ainsi de suite. Il y aura toujours un problème de ce côté-là.
Alors, il y a tout ce qui va... Tous les combats vont provoquer des destructions. Donc, il y a un ensemble de trucs qui vont être de polluants qui vont être disséminés dans la nature. Voilà, il y a sans doute des tas d'autres choses que j'ai pas en tête, mais ouais.
Bah, c'est les guerres, qu'est-ce que vous voulez faire?
Mais en global, faut éviter les guerres, voilà.
C'est pas joli joli, hein.
Bon bah, on vous souhaite une bonne journée.
Pareillement, au revoir.
Nous avons eu plusieurs avis partagés. Pour certains, la guerre détruit l'environnement.
Si nous prenons un exemple, l'impact sur l'environnement en Ukraine, les forêts ont été ravagées par des incendies militaires. Un tiers d'entre elles étaient des zones naturelles, d'après le documentaire France TV. C'est quoi l'impact des guerres sur la planète?
Nous avons trouvé ce sujet super intéressant car c'est très rare d'en parler. Les gens ont aimé répondre à nos questions. Ça nous a appris d'être sociables et à apprendre des choses que nous ne connaissions pas. Puis le micro-trottoir nous a permis de dépasser notre timidité.
Bienvenue Arwan et Ethan, ils vont nous donner la définition du racisme et nous en parler à travers des interviews. C'est un sujet important, nous les écoutons.
Nous avons fait un micro-trottoir dans les rues de Blois sur le racisme. Vous allez écouter les audios que nous avons faits.
Avez-vous déjà été témoin ou victime de racisme en France? Si oui, pouvez-vous partager votre expérience?
Ah, je n'ai pas été témoin, désolé. Non, je crois pas. Enfin, peut-être, mais en tout cas, je m'en suis pas rendu compte.
Avez-vous déjà vu quelqu'un être victime de racisme?
Ah oui, tout le temps.
Vous l'avez protégé?
Quand c'est dans une situation où j'ai pu intervenir, oui. Notamment en tant qu'enseignant, on a parfois des choses à reprendre avec certains élèves. Et puis sinon, dans la rue, pas forcément.
Pensez-vous que les gens ont peur d'intervenir, de se faire taper, ont peur quand il y a du racisme?
Je ne crois pas qu'ils aient peur de se faire taper. Je pense qu'ils hésitent, ils ne savent peut-être pas comment intervenir. Puis il y en a peut-être qui n'ont pas envie d'intervenir non plus.
Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de racistes en France?
Oui.
Pensez-vous que le racisme est un problème en France aujourd'hui?
Je pense, oui.
Selon vous, quels sont les principaux facteurs qui contribuent au racisme en France?
Pas facile à répondre, là. Je sais, la culture, je dirais, le poids de la culture au fil du temps, avec l'histoire des colonisations, etc. C'est philosophique, hein, c'est l'acceptation de la différence, parce que le racisme, là, on fait référence à... Je veux dire, pardon, la couleur de peau, des choses comme ça, mais il y a aussi, par exemple, on voit maintenant avec les orientations sexuelles, l'homosexualité, bref. Et puis, on pourrait parler des handicapés aussi dans l'histoire, puisque là, avec les Paralympiques, on voit qu'il y a un regard qui a changé. Donc, je dirais que je suis... c'est une question très large, mais je pense l'éducation, la culture, mais il y a du boulot, quoi. Il y a beaucoup de boulot.
Pensez-vous qu'il y a beaucoup de racistes en France?
Oui, malheureusement.
Êtes-vous raciste?
Non.
Que pensez-vous des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le racisme?
Moi, je pense que le gouvernement, ils font rien. Tu vois? En fait, je sais pas comment expliquer, mais ils font pas beaucoup de trucs contre le racisme. Contre le racisme. On peut voir, genre, le gouvernement, on dirait qu'ils sont racistes. Et la discrimination des Noirs. Je pense ça, hein.
C'est jamais sans doute suffisant. Je crois que les problèmes de racisme, puisqu'on parle de ça, sont à traiter sur le champ judiciaire. Évidemment, lorsqu'il y a un manquement, il est important quand même qu'il y ait des punitions. Ça me paraît normal. C'est-à-dire, il y a des lois, il faut qu'elles soient respectées. Et si elles ne sont pas respectées, il faut prévoir un arsenal de punitions. Mais il faut aussi s'intéresser au pourquoi. Qu'est-ce qui produit le fait que ça transgresse comme ça et que les gens en arrivent à ne pas réussir à vivre ensemble pour le racisme. Et du coup, moi, je pense... que le racisme est quelque chose qui est lié à très certainement de la peur et de la méconnaissance.
Que pensez-vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus de racistes en France?
Avec un petit peu d'éducation, c'est bien pour les jeunes, les moins jeunes, et pour améliorer la diplomatie.
Je pense qu'il faut beaucoup en parler, et pas seulement au lycée, pas seulement avec les jeunes, mais aussi avec les adultes, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont aussi dans ce mode de pensée-là.
Moi, je crois que l'école doit être un lieu où il doit y avoir du métissage, toutes les populations. C'est hyper important, hyper important.
Pensez-vous que le racisme va s'arrêter?
Ça serait bien.
Merci d'avoir écouté cet audio. Selon le journal Le Monde... il y a 14,6% des Français qui sont racistes, ce qui est équivalent à 800 000 Français racistes. Cela est beaucoup trop en France et dans le monde.
Bonjour Yasser, alors toi tu vas nous parler de la liberté. Nous t'écoutons.
Bonjour, j'ai parlé sur un micro-trottoir au lycée horticole de Blois.
Bonjour.
Bonjour.
Moi je m'appelle Abdallah Yasser.
Bonjour, moi je m'appelle Marjorie Barbet.
Enchanté. Moi je travaille sur le thème de la liberté. Est-ce que tu te sens libre?
Oui, je me sens libre.
En France, oui, souvent.
Oui, je me sens libre. Nous sommes dans un pays démocratique, donc je suis libre de penser ce que je veux, de m'exprimer comme je le souhaite et de pouvoir me déplacer comme je le souhaite également.
Est-ce que tu signifies pour la liberté pour vous, personnellement?
La liberté, qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est un vaste sujet. Liberté, j'entends la liberté d'expression. La liberté alors, d'expression par la parole, par ce qu'on fait.
Personnellement, je dirais que c'est pouvoir discuter de tout ce dont j'ai envie avec mes proches. C'est surtout la liberté d'expression que j'aime en France et qui me touche particulièrement.
C'est quand tu te sens libre?
Quand est-ce que je me sens libre? Ah oui. La liberté, c'est avoir le choix. Accepter les contraintes professionnelles, les contraintes familiales, les contraintes liées au vivre ensemble, le fait d'accepter que les autres ne soient pas d'accord.
Quand je me sens libre, tout le temps, au travail, chez moi, d'une manière générale, je suis libre à peu près de faire ce que je veux, à partir du moment où je respecte les autres et que je respecte la loi.
La liberté, c'est un idéal, mais est-ce que ça existe réellement complètement? Être complètement libre, moi je ne suis pas certain que l'absolue liberté soit en soi quelque chose à rechercher. Si on vivait librement ses pulsions, quand on est en colère, qu'est-ce qu'on ferait? Quand on a envie d'un truc, qu'est-ce qu'on ferait? Et au prix de quoi? Donc je crois que la liberté, c'est des espaces qu'on doit pouvoir s'offrir dans sa vie en tenant compte de son environnement. Je ne suis pas tout seul sur la planète.
Justement, c'est la possibilité de vivre ensemble. À partir du moment où tout le monde se respecte et qu'on respecte les lois, comme je viens de dire, c'est ça la liberté, quoi. Parce qu'on respecte les autres et les autres nous respectent.
Ah, ok. Moi, je me sens libre si je suis avec ma famille. Si tu fais une grève, est-ce que tu penses que tu es libre?
Si je fais une grève dans la rue? Alors, je ne fais pas forcément le lien entre la grève et la liberté, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont manifester, par exemple, pour lutter pour leur liberté, par exemple. Ce n'est pas une grève, mais c'est une manifestation. Oui.
C'est un droit, donc ça fait partie des libertés, effectivement. Si on fait grève, c'est qu'on a quelque chose à exprimer. Et à faire entendre.
J'avoue que je ne fais pas grève. C'est la liberté d'expression de chacun. C'est la liberté aussi d'entreprendre de chacun. C'est une façon de s'exprimer, d'exprimer sa colère. Chacun prend ses dispositions et ses responsabilités. Pour ma part, je ne suis pas dans cette dynamique.
Moi, je me sens libre si je suis avec ma famille. Si tu fais une grève, tu penses quoi? Que tu te sens libre?
Lorsque je fais la grève, oui, c'est une liberté. Ça, c'est une super liberté, tu as raison de le dire, hein, Yasser. Pour les travailleurs en France, ça, c'est une liberté qui n'allait pas de soi. Elle a été gagnée grâce à du dialogue social, grâce à la capacité des travailleurs à se réunir et à discuter avec les politiques et puis avec les chefs d'entreprise pour obtenir ce droit. Le droit de grève, c'est une liberté, en effet. Et donc, en effet, quand je vais faire la grève, c'est déjà pour des raisons qui sont importantes pour moi. Et ce sont des droits qui méritent d'être protégés, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des manifestations qui sont réprimées dans certains pays, dans la violence. Il y a des gens qui sont emprisonnés pour ça. Et puis, il y a des pays où on n'a pas le droit de manifester. Et puis, il y a des pays où on ne peut pas se le permettre non plus. Il y a des endroits, des personnes qui, quand ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas d'argent. En France, c'est le cas. Hein. Quand on ne travaille pas, on ne gagne pas d'argent. Il faut pouvoir se le permettre, ça. Ça ne va pas de soi. C'est un luxe de pouvoir faire la grève. Mais c'est nécessaire en France de préserver ses libertés.
Est-ce que si tu es au travail, tu te sens libre?
Oui, complètement. Ouais. Oui.
Je pense avoir oui, je pense avoir une certaine liberté, mais on est tenu au travail par sa hiérarchie. On est tenu par les attentes des uns, des autres. On est libre, mais il faut faire attention à la liberté des autres aussi.
Professionnellement, la liberté pour moi est de pouvoir choisir sa profession, de pouvoir exprimer aussi ses compétences au sein de sa profession et de pouvoir changer de métier quand je le souhaite. Si j'ai un travail, je me sens libre parce que j'ai la rémunération en lien avec le travail que je fais. Et donc, qui dit rémunération, dit peut-être aussi suffisamment d'argent pour faire ce que je souhaite faire avec.
Au travail, je me sens libre. J'ai enseigné dans d'autres pays du monde aussi. Et je me sens vraiment libre de pouvoir enseigner plein de valeurs super chouettes aux jeunes.
Bah, poursuivons à être libre dans notre pays. De la façon dont on le souhaite, en tout cas dans une liberté qui soit totalement démocratique.
Bah, on a fini là les questions. Bah, t'as quelque chose à dire pour toi aussi, pour la liberté?
Il y a une chose moi que mes parents m'ont appris et que j'ai appris aussi à l'école: ma liberté s'arrête ou commence celle des autres, et je ne peux pas me permettre, parce que j'ai envie de liberté, de négliger les autres, de leur manquer de respect ou de prendre de la place sur leur liberté à eux. Et la liberté totale, pour moi, n'est qu'un idéal, mais qui ne mérite pas d'être voilà, qu'on y accède. Je crois que la liberté, elle mérite par contre qu'on s'engage tous les jours pour la préserver ou pour en gagner dans certains autres pays. La France, c'est 80 millions de personnes. Le monde, c'est 8 milliards de personnes. La France, c'est donc un petit pays.
Bah, je pense que c'est un combat de tous les jours dans tous les pays et que c'est important de se battre pour la liberté, effectivement.
Vive la liberté.
Tu m'as soufflé quelque chose? Ouais, allez le vivre ensemble, oui.
Je vais vous parler du thème de la liberté. La liberté, c'est la possibilité d'agir selon son propre choix sans être contraint. La liberté, pour moi, c'est une sécurité des personnes, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté de penser, de conscience et de religion. La liberté, c'est le droit de parler, d'agir comme on va bien. La liberté, c'est savoir avoir le choix. Pour moi, je me sens libre dans ma famille parce que je parle avec eux, on mange ensemble, on discute ensemble de tout. Je me sens heureux.
Je suis un Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson. Sur la terre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions. Je suis un homme au cœur de lion. À la guerre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition. Belle voiture et belle maison, dans la chambre, dans le salon, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution, je fais le tour de la question. J'avance, avance à reculons, oui je tourne en rond, je tourne en rond. Tu vois, je suis pas un meuble, je suis le
Nous vous proposons maintenant un sujet d'actualité. La guerre en Palestine, un sujet traité par Esma et Zira.
Nous, on va vous parler de la guerre en Palestine. Hier, on est parti à la guerre interviewer les personnes.
Que pensez-vous de la guerre en Palestine ?
Très franchement, pas grand-chose. Moi, je pense que c'est surtout les hommes, hein. En fait, c'est l'humain, hein, d'une façon générale, quoi. J'ai pas forcément d'idée là-dessus.
Oui. Je sais même pas comment ça se passe. S'il y a la guerre, je ne suis même pas ça.
D'accord.
Donc, vraiment, je sais pas. On dirait, Israël, c'est pas Israël, avec quel pays-là. Mais je ne suis pas trop attentionnée sur ça, vraiment.
D'accord, vraiment, merci, c'est pas
toutes
grave.
Toutes mes excuses, ma fille.
C'est pas grave, madame. Ah.
Sincèrement, ça fait mal au cœur pour ce pays, surtout pour les enfants.
Je pense que c'est une guerre absurde. Évidemment, il y a des raisons, puisqu'il y a eu un problème au départ. Vous parlez après, depuis les attentats du 7 octobre. Donc, en effet, Israël avait été légitime à se défendre, mais on ne peut pas justifier plus de 40 000 morts de cette façon-là. C'est inadmissible. On ne peut pas accepter ça.
Quelles sont, selon vous, les principales causes de conflits israélo-palestiniens ?
Je maîtrise pas bien la politique, mais je pense que c'est un manque de droit de partage.
Selon moi, je pense que c'est une histoire de conflit, je dirais religieux. Je suppose, hein, parce que je vous dis très franchement, je n'écoute pas forcément, mais je m'interroge cependant.
Bah, c'est chacun veut récupérer le pays, c'est ça normalement. Normalement, c'est ça.
C'est un conflit extrêmement... Le conflit est profond. Le problème, pour moi, la principale cause, c'est qu'on n'arrive pas à faire une place à deux États, c'est-à-dire à faire une place à un État palestinien. Et il faut absolument que d'un côté Israël fasse une place à un État palestinien et que de l'autre côté, le mouvement palestinien reconnaisse l'existence d'Israël. C'est absolument important, sinon on n'en sortira pas.
Comment pensez-vous que les médias représentent la situation en Palestine ?
Je pense qu'il y a du parti pris, on ne sait pas forcément ce qui se passe réellement, d'où mes interrogations. En tous les cas, moi, c'est mon cas.
Il n'y a pas vraiment des gens pour voir comme on voit les enfants qui, avec les bombes, ils envoient des bombes, ils ne font pas assez passer le message encore. Et vous devrez passer plus le message.
Oh, les médias, ils essaient d'être objectifs, mais enfin, ça dépend si tu... Mais de façon générale, on a quand même des informations relativement fiables. Pour ce qui concerne la presse écrite et puis un peu la presse télévisée, je pense qu'il vaut mieux s'informer sur la presse écrite, télévisée, plutôt que sur TikTok et tout ça, où là, évidemment, c'est autre chose.
Quel impact pensez-vous que le conflit a sur le quotidien, sur la vie quotidienne des Palestiniens ?
Bah, c'est la population qui paie, qui contribue le plus en fait. Elle, je dirais, les élus, etc. En fait, le gouvernement, en fait, ça ne l'impacte pas. Ce sont les citoyens lambda, c'est l'usager en fait, c'est lui qui est impacté.
Oh, c'est désastreux, c'est affreux, je veux dire, c'est absolument insupportable. On ne peut pas, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas accepter ça. C'est une chose absolument horrible. Les Palestiniens ne vivent plus, ce n'est plus une vie. Gaza, c'est un champ de ruines. Non, on ne peut pas accepter ça. Là, à ce niveau-là, l'impact, il est désastreux, il est absolu. Il faut trouver une solution politique.
Quelle solution pourrait être envisagée pour parvenir à une paix durable dans la région ?
Moi, je pense que ce sont les relations internationales, qu'on le veuille ou pas, hein, à l'heure de la mondialisation. Je pense que c'est quelque chose à prendre à bras le corps avec le G7, etc.
Comment la communauté internationale devrait-elle réagir face à ce conflit ?
En fait, ça revient à ce que je disais, en fait, hein, qui cherche une solution commune, etc., pour éviter... Bon, après, ce sont des conflits, hein, mondiaux, mais je pense qu'il y a possibilité.
D'accord, merci, bonne journée. Yes. Au revoir.
Passons en Chine pour finir cette émission avec Maïdé, Lamia et Aya qui vont nous parler des Ouïghours, un autre peuple victime des persécutions.
En classe, nous avons fait une émission radio. On a choisi le sujet des Ouïghours à Xinjiang en Chine. Nous avons choisi de faire un micro-trottoir et on vous laisse avec notre émission.
Connaissez-vous le peuple Ouïghour ?
Oui, je le connais.
D'accord. Que pensez-vous de l'exploitation des Ouïghours par les grandes entreprises chinoises ?
Inadmissible. C'est vraiment inadmissible.
D'accord. Quelles sont les solutions pour les sauver que vous...
Bah, de boycott, je pense, certaines choses, comme Shein, Temu. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Connaissez-vous le peuple Ouïghour ?
Pas du tout.
Ah non, puisque là, j'ai appris ce qu'ils étaient, les Ouïghours. Non, dès qu'il y a la misère humaine, voilà, non, je suis Kant. C'est pas normal.
Non, j'étais pas forcément au courant. Je savais juste qu'ils étaient dans des camps de concentration où ils étaient là-bas, où ils se faisaient séquestrer. Après, non, je savais pas plus que ça.
Et les solutions, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire un peu pour sauver les Ouïghours ?
Que le gouvernement s'y apprête, trouve des solutions, mette des choses en place. C'est leur travail, en fait, pour améliorer les conditions humaines.
Oui, exactement. Merci pour vous. C'est gentil.
Je vous en prie. D'accord. J'ai appris. On apprend tous les jours. Merci à vous. Je ne connaissais pas du tout.
Merci. Les Ouïghours, environ 11 millions, sont un peuple turcophone, principalement musulman, vivant principalement dans la région autonome de Xinjiang, située en Chine. La majorité des Ouïghours pratiquent l'islam sunnite et ils ont une longue histoire dans la région. Remontant à plusieurs siècles, ils ont été exploités, travail forcé, stérilisation forcée. Ça attire l'attention mondiale en raison de l'allégation de génocide.
Le gouvernement chinois a mis en place une série de mesures, dont des emprisonnements massifs dans des centres de rééducation que Pékin décrit comme des installations de formation professionnelle, mais que des organisations internationales et des gouvernements qualifient de camps de concentration. Le régime chinois voit les Ouïghours comme des étrangers, en raison de leurs différences culturelles et de leur religion musulmane.
Officiellement, la Chine prétend que ce sont des centres de formation et d'éducation afin d'aider les Ouïghours à trouver un emploi et les éloigner de la radicalisation islamiste.
Et dans le cadre d'une vaste mobilisation sur les réseaux sociaux, 83 marques ont été accusées de participer à l'exploitation de cette minorité.
Puis on a trouvé de nombreuses associations de défense des droits humains qui dénoncent cette répression et réclament l'ouverture de commissions d'enquête par les organisations internationales.
Toutes ces informations ont été trouvées dans le magazine Phosphore du 1er février 2021.
Pour l'émission radio avec Studio Zef, nous avons remarqué que la plupart des personnes qu'on a interviewées ne sont pas au courant de ce qu'il se passe à Xinjiang sur les Ouïghours. On le voit à travers l'enregistrement.
Merci à Maïdé, Lamia et Aya.
Et enfin, dernière musique, Jour meilleur de Orelsan, qui date de 2021. Nous remercions tout le monde pour cette émission et les auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés.
Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site Studio Zef. Merci à tous.
Merci et au revoir.
Et au revoir.
Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il n'y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer. Enfin, sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on verra sous un jour meilleur. Jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur. Jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. Comme dans toutes les chansons de Varia, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. Être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être. Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais. Mon ami, laisse-moi dire deux trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais.
Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.